François Bayrou est le nouveau Premier ministre. Il a été nommé hier soir pour nous par Emmanuel Macron après une semaine d'hésitation et quelques coups de théâtre. Bruno Retailleau sera-t-il reconduit place Beauvau? Le ministre de l'Intérieur démissionnaire a été reçu pendant près de 2 heures ce matin par le nouveau Premier ministre. Le pape François attendu ce dimanche en Corse, des dizaines de milliers de personnes attendues sur l'île de Beauté où les mesures de sécurité ont été renforcées. Justice en Calédonie, le procureur de la République dévoile les conclusions de l'enquête concernant des faits de violence graves sur Caméré, c'était au mois de juin. La visite en Calédonie de la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, elle s'est rendue ce matin au quartier asiatique de Nouméa. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. À 10 jours du réveillon de Noël, les communes de Païta et de Dimbéa organisent aujourd'hui leur grand marché de Noël. Le sport et le handball, l'équipe de France dames éliminée en demi-finale des championnats d'Europe des Nations. Les Françaises se sont inclinées 24-22 devant le Danemark. Et puis en Calédonie, du va avec les championnats territoriaux V6 longue distance. Les rameurs se sont retrouvés sur le plan d'eau de Lansvata. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. L'actualité politique en métropole fait encore la une de l'actualité ce midi. François Bayrou est donc le nouveau Premier ministre. Il était 22h43 hier soir à Nouméa, midi 43 à Paris, lorsque le communiqué tant attendu en provenance du palais de l'Élysée et indiquant le nom du nouveau locataire de Matignon a été rendu public. La nomination de François Bayrou est intervenue après une semaine d'hésitation et de nombreux coups de théâtre. La passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou s'est déroulé tôt ce matin pour nous à l'hôtel de Matignon. Les deux hommes se sont tout d'abord entretenus à huis clos avant de prendre la parole sur le perron de Matignon. Et c'est Michel Barnier qui a pris la parole en premier pour féliciter son successeur.
Je sais depuis longtemps en effet votre ténacité et votre engagement pour notre pays et pour l'Europe. En ce qui me concerne, je reste un citoyen engagé et je resterai au service des Français. Et du côté des Français.
Devant les caméras, François Bayrou semble savourer ce moment qu'il attendait, il faut bien le reconnaître, depuis de très nombreuses années. Mais lors de sa prise de parole, le nouveau Premier ministre a très rapidement évoqué les grands sujets d'actualité et notamment ceux autour du déficit budgétaire de la France.
Nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement. Puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer.
François Bayrou, lors de sa première prise de parole officielle en tant que nouveau Premier ministre, on le disait il y a un instant, sa nomination est intervenue après de nombreuses hésitations et de nombreux coups de théâtre. François Bayrou qui semble avoir même quelque peu forcé le destin. Jacques Sorret pour Europe 1.
François Bayrou a arraché cette nomination. Ce matin encore, Emmanuel Macron ne comptait pas sur lui. Le chef de l'État l'avait convié à l'Élysée pour lui expliquer que ce ne serait pas lui à Matignon. Le locataire de l'Élysée s'apprêtait à choisir Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. François Bayrou a alors explosé. Colère noire, expliquent certains dans son entourage. Échange d'1h45. Très difficile avec le président, relate un proche du maire de Pau. Mais face à la pression de François Bayrou et après un nouveau temps de réflexion avec son entourage, le chef de l'État s'est ravisé. Près de 2 heures après être ressorti de l'Élysée, François Bayrou est alors recontacté, cette fois pour être informé qu'il est le nouveau Premier ministre.
Et parmi les premiers rendez-vous inscrits à l'agenda du tout nouveau Premier ministre, une rencontre avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire. L'entrevue entre les deux hommes a duré près de 2 heures ce matin. Peu de choses ont filtré de cet entretien. Mais le sénateur LR pourrait être reconduit place Beauvau si le Premier ministre lui donne des garanties sur des sujets tels que l'immigration. Si Bruno Retailleau venait à être reconduit dans ses fonctions, cela pourrait être une donnée importante dans l'optique de la composition du prochain gouvernement. L'annonce de la nomination de François Bayrou à Matignon a suscité, vous l'imaginez, de très nombreuses réactions dans la classe politique. Et en attendant la composition du nouveau gouvernement, François Bayrou semble bénéficier d'une certaine clémence de la part des différents responsables politiques. Alexandre Chevaux pour Europe 1.
Clémence toute relative, mais clémence quand même. Alors François Bayrou reçoit déjà le soutien, et ce n'est pas rien des macronistes comme Gabriel Attal.
Je pense que François Bayrou c'est la bonne personne au bon moment, au bon endroit, pour répondre aux aspirations des Français qui aspirent à une forme de sobriété, de tranquillité et surtout à une unité pour l'intérêt du pays et pour leur vie quotidienne.
Le Rassemblement National, de son côté, affirme qu'il ne censurera pas François Bayrou par principe, même si Jordan Bardella pose ses conditions.
Ce nouveau Premier ministre doit prendre en considération la nouvelle donne politique et il doit entendre qu'il n'a pas de légitimité démocratique ni de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui suppose donc un dialogue nécessaire avec l'ensemble des forces représentées au Parlement.
Et puis le PS et les Républicains observent peu ou prou la même position. À gauche, les socialistes n'entreront pas au gouvernement, ainsi qu'ils l'avaient promis si le Premier ministre n'était pas l'un des leurs. Même si la censure ne sera pas automatique, pour épargner François Bayrou, le PS réclame notamment le non-recours au 49-3 et une totale indépendance vis-à-vis du Rassemblement national. Chez LR, Laurent Wauquiez et ses troupes attendent d'abord de connaître le projet de François Bayrou avant de se prononcer. La droite décidera en fonction d'entrer ou non au gouvernement. LR devrait en revanche renoncer à toute motion de censure au nom de l'aspiration à la stabilité.
Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1. Au chapitre des réactions encore, celle de Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription, a adressé un courrier au nouveau Premier ministre Michael Juneski.
Votre expérience et votre engagement au service de notre pays sont des atouts précieux pour relever de nombreux défis que rencontre aujourd'hui la France, écrit Nicolas Metzdorf. Après avoir adressé ses félicitations à François Bayrou, Nicolas Metzdorf poursuit ce courrier en évoquant la Nouvelle-Calédonie, territoire dont les spécificités et les enjeux institutionnels et budgétaires requièrent une attention particulière et urgente, écrit le député calédonien. Je sollicite un rendez-vous à votre convenance pour partager avec vous les attentes et les préoccupations des Calédoniens vis-à-vis de la situation financière de notre territoire, mais aussi pour envisager les pistes permettant de maintenir un dialogue serein et efficace, conclut Nicolas Metzdorf dans ce courrier adressé il y a quelques heures au nouveau Premier ministre François Bayrou.
Autre réaction en Calédonie, celle de Sonia Baquès, la présidente de l'Assemblée de la province Sud. Sur son compte Facebook, Sonia Baquès indique qu'elle s'est longuement entretenue au début du mois d'octobre avec François Bayrou. Nous avons eu l'occasion d'aborder en profondeur les différentes options qui s'offrent à notre territoire, écrit Sonia Baquès. Je l'ai senti alors que sa fonction précédente était loin de nos problèmes calédoniens, à la fois pragmatique et déterminée à nous accompagner. Fin de citation. Rappelons qu'avant sa nomination à Matignon, François Bayrou était depuis 2020 haut-commissaire au plan. Et puis encore un mot après cette nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. Selon un sondage de l'Institut CSA pour Europe 1, le journal du dimanche et CNews, 38% des personnes interrogées seulement font confiance à François Bayrou en tant que Premier ministre. C'est 4 points de moins que Michel Barnier lorsqu'il était entré à Matignon. L'actualité en métropole, c'est aussi ce projet d'avis de la Haute Autorité de la Santé qui fait beaucoup parler. Un panel d'experts missionnés par la Haute Autorité pour travailler sur la transdiversité vient d'émettre ses premières recommandations. Et parmi ces recommandations, le remboursement intégral des transitions de genre dès l'âge de 16 ans ou encore la déchéance de l'autorité parentale pour les pères et les mères qui s'opposeraient au changement de sexe de leur enfant. Écoutez à ce propos l'eurodéputée Marion Maréchal.
C'est terrifiant, ça n'est pas seulement scandaleux, c'est terrifiant. De quoi parle-t-on ? On parle de transition de genre de mineurs, les adolescents dont on sait évidemment qu'ils traversent une période en général dans laquelle ils ne sont pas très bien dans leur peau, en leur proposant des réponses sanitaires et médicales définitives. C'est des choses extrêmement graves et c'est d'autant plus, j'ai envie de dire, scandaleux que tous les pays qui ont fait ces expériences, j'ai envie de dire, jusqu'au boutiste vis-à-vis de la transition de genre pour mineurs, en sont revenus et aujourd'hui sont en train de revenir en arrière tant le drame sanitaire est terrible. Je pense notamment évidemment à la Suède, mais on a d'autres exemples comme le Danemark aussi. Donc c'est quand même vraisemblable d'avoir aujourd'hui ce genre d'instances soi-disant représentatives qui sont en fait dans un militantisme transactiviste. C'est ça la réalité, un militantisme LGBT au lieu de tenir compte évidemment de l'intérêt de l'enfant et de l'adolescent.
L'eurodéputé Marion Maréchal, invité de Pascal de la Tour du Pin ce matin sur Europe 1. C'est l'événement religieux du week-end en métropole. Le pape François sera en visite ce dimanche en Corse. Un déplacement historique et plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont attendues à Ajaccio. Dans cette ville de moins de 75 000 habitants, les mesures de sécurité sont exceptionnelles. Frédéric Michel pour Europe 1.
C'est un dispositif XXL qui se met doucement en place. Depuis 48 heures, les renforts du continent arrivent sur l'île. Plusieurs bateaux ont transporté des gendarmes, pompiers et militaires. Jérôme Filippini, le préfet de Corse.
Au-delà de près de 1000 personnes, des services de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers de Corse, c'est 2200 personnes qui viennent en renfort de Metz, de Lille, pour les unités de force mobile. Les compagnies de marche, ce sont des policiers qui se sont portés volontaires. Ceux-là, ils sont venus de toute la zone sud, depuis Cahors dans le Lot, jusqu'aux Alpes de Haute-Provence. Ce sont des policiers qui ont dit « Banco, nous on est prêts pour venir ».
Alors, l'espace aérien sera interdit dimanche. Des équipes d'interception de drones seront à l'affût. Deux rafales vont sillonner le ciel durant toute la visite du pape. Ils seront ravitaillés en vol. Des hélicoptères avec des tireurs d'élite pourront décoller à tout moment. Il sera impossible de naviguer ou de mouiller au large d'Ajaccio. Et pour la première fois en Corse, des militaires de l'opération Sentinelle vont patrouiller. La sécurité rapprochée du souverain pontife est-elle assurée par les gardes suisses, appuyée par différentes unités d'élite de notre pays. Notez aussi qu'il a fallu faire venir du continent 4,5 km de barrière, l'île n'étant pas suffisamment équipée.
Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1 sur l'île de Beauté. Radio Rythme Bleu, il est midi et 13 minutes. On va marquer une première pause dans le journal. Vous restez avec nous à suivre l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Le quartier Alma est désormais ouvert tous les dimanches de 8h à 12h. En plus de vos enseignes favorites comme Decathlon, la Foire Fouille, Célio et bien d'autres, venez profiter d'un marché avec des animations, un manège pour les enfants et des stands divers et variés. Rendez-vous chaque dimanche matin au quartier Alma, votre destination shopping et détente. Quartier Alma, rue de l'Alma au centre-ville. Plus d'infos sur Facebook.
Vivez au rythme de Noël avec la ville de Nouméa.
Du 14 au 24 décembre, un spectacle quotidien au kiosque à musique embarquera vos enfants dans des univers magiques.
Le marché de Noël artisanal, en partenariat avec la CMA, vous attendra place de la Marne.
Et enfin, le Père Noël viendra à votre rencontre sur la place des Cocotiers à bord de son traditionnel char. Retrouvez le programme complet sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons ensemble la magie de Noël.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
L'eau est essentielle. En cette période de sécheresse, chaque geste compte. Préservons notre ressource, économisons notre eau.
Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Info Weekend avec l'actualité dans le Pacifique et sur le territoire. On retrouve Lionel Sabot.
Et venons-en à l'actualité en Calédonie et la suite du traitement judiciaire des émeutes de ces derniers mois. Avec cette affaire rendue publique hier par le procureur de la République, Yves Dupas, elle concerne une affaire de coups mortels par arme à feu qui avait eu lieu le 23 juin dernier dans le quartier de Caméré, Michael Juneski.
Oui, ce soir-là, vers 20h40, la police reçoit l'appel d'un homme menacé par une trentaine d'individus qui tournent autour de sa maison en menaçant de le tuer ainsi que sa famille et d'incendier son habitation. L'homme, visiblement paniqué, a déclaré avoir fait usage de sa carabine 22 long rifle pour repousser les assaillants dans des conditions extrêmement difficiles. Les forces de l'ordre finissent par arriver sur place vers 22h et c'est le raid qui permettra d'extraire la famille menacée et les voisins de ce contexte insurrectionnel. Les témoignages et l'exploitation d'une vidéo réalisée par un voisin mettent en évidence un contexte de violence et de menace très grave visant la famille des victimes, notamment, je cite, « Tuez-les tous, entrez dans les maisons, sortez les bâtards de blanc, tuez-les, tuez ce sale chien. » La maison de la victime a ensuite été incendiée le 29 juin 2024.
Et à la suite de ces faits, deux enquêtes ont été ouvertes. La première pour violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commise en réunion et avec armes, menaces de mort réitérées, destruction de biens par incendie et vol en réunion avec dégradation. La seconde pour violence ayant entraîné la mort sans intention l'extension de la donnée suite au décès d'un jeune homme de 23 ans atteint par un projectile au niveau du bas-ventre, Michael.
La première enquête qui a abouti à l'arrestation d'un mineur de 17 ans qui a été déféré au parquet avant sa convocation devant le tribunal pour enfants à une audience de janvier 2025. En attendant, il a été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution à l'audience par ordonnance du juge des libertés et de la détention, décision conforme aux réquisitions du parquet. Lors de ses auditions, il a reconnu avoir participé au fait de menaces de mort réitérées et aux dégradations. Il a aussi confirmé que le jeune homme de 23 ans se trouvait bien avec lui et qu'après trois coups de feu tirés par l'occupant des lieux, les assaillants s'étaient enfuis. Le jeune homme, qui avait été blessé au bas-ventre, avait été raccompagné à son domicile par le mineur. Il avait précisé à ses parents qu'il avait participé à un délire avec des copains. L'enquête pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec arme a permis une autopsie de la victime qui a montré que le décès du jeune homme était consécutif à une hémorragie importante compatible avec une blessure provoquée par arme à feu. Le projectile retiré du corps correspondait bien au type de munition et à l'arme utilisée par le propriétaire des lieux. Lors de ses auditions, le propriétaire a expliqué qu'il avait tiré à 5 reprises pour provoquer la fuite des assaillants, dont 3 d'entre eux qui s'était introduit dans l'une des chambres, menaçant directement sa famille et lui-même. Il a également reçu une grosse pierre et un pot de fleurs. Il a aussi indiqué qu'il a tiré dans l'obscurité et plutôt en hauteur, sans chercher à viser une personne, dans un contexte de crainte majeure pour leur vie. Le parquet a décidé de classer sans suite cette procédure au motif, explique le procureur de la République, qu'il s'agit d'une action de légitime défense, la riposte du propriétaire des lieux étant proportionnée à la gravité de la menace pesant sur 2 membres de sa famille et lui-même, vu le contexte avéré de péril de mort. Par conséquent, poursuit Yves Dupas, la responsabilité pénale de l'occupant des lieux ne peut être engagée pour les violences exercées dans ce contexte de légitime défense. Cette décision de classement sans suite a été communiquée et expliquée aux parents du jeune homme décédé.
4 jours après la démission de Christopher Gigès du conseil d'administration à Dercalin, Gilbert Huyénon et Michael Forest en déplacement en métropole réagissent, Michael.
Par voie de communiqué, ils déclarent prendre acte de la démission de Christopher Gigès, ajoutant que, selon eux, ce dernier n'avait que peu d'intérêt pour cet outil essentiel pour le désenclavement et le développement économique de la Nouvelle-Calédonie et qu'il se serait maintenu à l'écart de toutes les informations sur les effets de la crise pour la compagnie. Christopher Gigès avait expliqué mercredi dernier que, je cite, le nombre d'élus dans la délégation pour l'ouverture de la ligne est tout simplement indécent au vu du contexte. Il relevait que, je cite toujours, pendant que certains bataillent au Congrès pour dégager les crédits nécessaires à la survie de la Nouvelle-Calédonie, d'autres voyagent. Il avait ajouté qu'avec Isabelle Chamorro et d'autres élus, ils avaient refusé donc l'invitation à cet événement pour ne pas cautionner cet abus. Dans la délégation qui participait au voyage d'ouverture de la ligne Bangkok-Paris, on notait la présence notamment donc de Gilbert Huyénon, de Michael Forest, mais aussi d'Omeira Neslin, entre autres. Les principaux intéressés mis en cause répondent que la délégation de Calédoniens partis pour Paris était tous en charge de sujets qui concernaient la compagnie ou le secteur touristique calédonien. Fin de citation.
Des turbulences encore avec des modifications dans le programme des vols d'Air Calédonie International. La compagnie indique que ces changements sont dus à une opération de maintenance effectuée à Singapour sur l'un de ses appareils. Ainsi, le vol nommé à Singapour de demain est retardé. Il quittera la Tontouta à 9h20 ce dimanche. Le vol retour est également retardé et se posera finalement en Calédonie lundi matin à 5h30. Des aménagements également sur la nouvelle ligne nommée à Paris via Bangkok. Le vol SB500 a bien quitté la Tontouta la nuit dernière, mais à Bangkok, les voyageurs seront pris en charge sur d'autres compagnies aériennes pour relier Paris. Pour le vol retour Paris-Nouméa, un avion a été spécialement affrété afin d'assurer que les passagers de cet itinéraire, un vol sans modification horaire, indique Air Calin. Et puis toujours au chapitre des transports, rappelons que les rotations du Betticho ont repris aujourd'hui. Le navire était à quai depuis le 18 novembre, bloqué à cause de problèmes sur le moteur et le groupe électrogène. L'équipage n'attendait plus que la validation des contrôleurs pour reprendre la mer. C'est chose faite. Le Betticho dessert aujourd'hui à l'île des Pins, puis à les îles Loyauté, demain, lundi et mardi. Les équipes de la Sud-Île travaillent actuellement pour reprogrammer l'ensemble des rotations et replacer les passagers dont les voyages ont été annulés.
La visite officielle en Calédonie de la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Anh Lý Thị Thu, a rencontré le haut-commissaire et l'ambassadrice de France dans le Pacifique, puis le président du Sénat coutumier, la présidente du Congrès, le président du gouvernement, mais aussi de la CCI, la maire de Nouméa, le vice-président de la province sud. Moment de recueillement au monument des Changdang. C'était ce matin, les premiers Vietnamiens arrivés sur le territoire dans le quartier asiatique avant de rencontrer les commerçants. Les précisions de la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Anh Lý Thị Thu.
Những cái người mà được người dân địa phương gọi là chân đăng, nhưng đây là những cái người mà sang đây lao động làm việc ở trong các cái khu mỏ.
Nous trouvons ici devant le mémorial dédié aux premiers Vietnamiens travailleurs engagés ici que vous appelez très souvent les chân đăng. Et aujourd'hui, nous avons donc les premières, la deuxième et également la troisième, même la quatrième génération des premiers Vietnamiens engagés ici qui ont contribué en effet au développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Et en effet, dans toutes les rencontres avec les autorités calédoniennes, on a pu constater à l'unanimité que la communauté des Vietnamiens ici sont respectés pour leur assiduité, pour leur caractère travailleur, rédiscret. Donc on est très contents de voir, ils ont une communauté qui sont solidaires, qui s'entraident vraiment.
Des propos recueillis par Kelinda Boikou. Ce soir, elle rencontrera la communauté vietnamienne au foyer vietnamien. Venons-en à l'actualité festive. Les marchés de Noël, à 10 jours maintenant de l'événement, les communes multiplient les rendez-vous. C'est le cas ce samedi, notamment au hall de Dimbéa Centre, où les visiteurs affluent depuis ce matin pour découvrir de nombreux stands. Ambiance.
Ben c'est très joli. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix, surtout pour les enfants. Voilà, un grand merci à eux qui ont préparé tout ça.
Ben, en vrai, ça va. C'est bien, c'est joli, il y a beaucoup de centres.
C'est joli, il y a plein de monde, c'est bon.
C'est bien, ouais. Le temps, il est là un peu, ça va.
Très bien.
Ça y est, on sent que c'est les fêtes.
Oui.
Un très beau marché de Noël, une bonne reprise, beaucoup de monde, une diversité dans les stands. On a à la fois l'artisanat, la restauration. On espère en fait par ces petits marchés que progressivement les Calédoniens reprendront leur place et deviendront acteurs de l'économie ici en Nouvelle-Calédonie.
De toute façon, c'est toujours bien d'organiser ce genre de manifestation, mais c'est sympathique.
Un marché de Dimbéa qui se poursuit jusqu'à 19h ce soir. Et à Païta, Michael Juneski, c'est un marché solidaire qui se tient depuis ce matin en partenariat avec l'ADI.
La municipalité qui, avec l'Association pour le droit à l'initiative économique, a choisi d'inviter notamment des artisans dans le besoin, plus que jamais après cette année difficile. Tout genre de stands installés donc au cœur et aux alentours du marché municipal pour des professionnels qui avaient besoin d'une vitrine pour leur activité avant les fêtes. Des associations venues de Canala, des producteurs venus de Boulou Paris ou encore des jeunes comme Joris, arrivé de Vaud avec sa compagne pour donner la main à la boucherie familiale.
De rester ici, ça fait un peu, ça change. Hein. On voit du monde, on discute. Ça a changé de tout ce qui s'est passé comparé à les émeutes. Et là, ça fait du bien de voir du monde, parler, de leur faire des petites pièces. Puis voilà, pour la Noël, vendre des choses, des produits, rencontrer des autres gens aussi. Puis c'est bon parce qu'il y a plein de trucs aussi.
Tu peux me permettre, vous avez quel âge tous les deux?
Moi, j'ai 24 ans. Elle a 20 ans, là. Moi, c'est ma copine, elle a 20 ans. Oh, mais après, il n'y a pas d'âge. Il faut juste pas avoir honte et puis savoir parler avec le client. Il y a des gens qui sont timides, qui ont peur. Il y a des autres gens qui sont ouverts, ils n'ont pas de barrières, ils n'ont pas de limites. Nous aussi, on a un enfant, c'est pour ça qu'on est venu vendre un peu des trucs, c'est ça. Une obligation pour bébé, c'est juste ça.
Voilà un événement solidaire à Païta qui continue cet après-midi, donc jusqu'à 15h au marché municipal de la commune.
Et à Nouméa, des animations débuteront ce soir et jusqu'au 23 décembre sur la place des Cocotiers. Si la traditionnelle féerie de Noël a été annulée en raison de la crise insurrectionnelle, la municipalité s'est tout de même associée à la Chambre des métiers de l'artisanat pour que les exposants puissent tous les jours prendre leur quartier sur un marché de Noël. Il y aura également des spectacles gratuits tous les soirs. Rendez-vous dès aujourd'hui à partir de 16h30.
Au cœur de Noël avec l'OPT.
pour que Noël soit une fête pour tous.
Noël sur Radio Rythme Bleu avec notre opération Au cœur de Noël lancée depuis deux semaines maintenant. Nous attendons vos dons, vos cadeaux qui seront cette année distribués aux familles victimes de la crise insurrectionnelle ou qui subissent encore directement les impacts des émeutes. Une opération qui se déroule, vous le savez, avec nos partenaires, la Croix-Rouge, la Société Saint-Vincent-de-Paul, le Secours catholique et la Table ronde française. L'ouverture ce matin de la deuxième édition du Salon des Antiquités, des objets de collection et du vintage dans la salle d'honneur de la ville de Nouméa. Une manifestation organisée par l'Association calédonienne des amateurs d'objets de collection. Les visiteurs sont nombreux à déambuler entre les tables des 25 exposants présents.
C'est le plaisir de voir des vieilles choses et puis voilà, c'est le plaisir de rencontrer plein de gens que je connais. C'est les timbres de la Russie, enfin de l'URSS. Et moi, j'étais là-haut en 75.
J'avais hâte de venir parce que j'adore les antiquités, le vintage. Je suis vraiment très contente, il y a très très belles choses. Et je suis arrivée il y a déjà une heure, je n'ai même pas fait 20 mètres. Tellement qu'il y a des belles choses. J'ai trouvé pour broyer le café, comme on dit, un moulin à café authentique de marque Peugeot. Alors ça, c'est super sympa, quoi. Bon, je ne vais pas dire que je vais faire du café avec, mais rien que l'objet est très beau. Et j'ai trouvé également des poids, parce que j'ai pu acquérir une balance il y a quelques mois. Et il me manquait les poids pour ma balance. Donc je suis trop trop contente.
C'est les voitures, les trucs anciens en fait, les BD, les Spirou surtout.
C'est très intéressant, il y a beaucoup d'objets de différentes origines, l'Asie, l'Afrique, les régions qui nous entourent, le Vanuatu, la Papouasie. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens.
Et vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse ?
Oui, j'ai trouvé des verres de collection, des verres gravés, et puis j'ai eu le coup de foudre, je les ai achetés.
Et la deuxième édition du Salon des Antiquités, des objets de collection et du vintage, c'est jusqu'à 20h ce soir. Et puis demain, de 8h à 17h, dans la salle d'honneur de la ville de Nouméa. L'entrée est libre et gratuite. Midi 28 minutes, on marque une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Chez Gémeaux, préparez vos fêtes de fin d'année en un clin d'œil. Des vêtements chics et décontractés pour toute la famille, des chaussures, des accessoires de mode et bien sûr, des idées cadeaux pour gâter tout ce que vous aimez sans vous tromper et au meilleur prix. Gémeaux, taillé pour les fêtes.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Mardi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale Noël sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne ? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Toute l'actualité sportive avant de retrouver Lionel Sabot, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on ouvre cette page de sport avec du handball et cette grosse déception pour l'équipe de France dames au championnat d'Europe des Nations. Ce matin, les Françaises jouaient une place pour la finale de la compétition. En demi-finale, les Bleuettes affrontaient le Danemark. Malheureusement, les joueuses de Sébastien Gardiou ne sont jamais vraiment rentrées dans la rencontre face à une équipe danoise accrocheuse. Au final, les Françaises se sont inclinées. Score final 24 à 22. Déception pour Laura Gloser, la gardienne de but de l'équipe de France.
Ça fait pas plaisir. C'est pas agréable de perdre comme ça, je pense, mais c'est comme ça. Il faut vite switcher. Il faut pas qu'on reste dans notre frustration, dans notre tristesse et tout ça. Je pense qu'il faut vite switcher pour le match contre la Hongrie.
Et dans l'autre demi-finale de cet Euro, dames, la Norvège a tranquillement décroché sa place pour la grande finale. Les Norvégiens norvégiennes se sont imposées 30 à 22 sur la Hongrie. Il reste deux matchs à disputer dans cette compétition continentale. La grande finale entre le Danemark et la Norvège et le match pour la troisième place, la petite finale qui verra donc une confrontation entre la France et la Hongrie. Le Sportco, c'est aussi le football avec le coup d'envoi ce matin de la 15e journée du championnat de France de Ligue 1. Un match était au programme. L'AS Saint-Etienne était en déplacement sur la pelouse de Toulouse. Et une fois encore, les Stéphanois ont déçu puisqu'ils se sont une nouvelle fois inclinés. Les Verts avaient pourtant ouvert la marque un peu avant l'heure de jeu par Stassin. Mais les Toulousains, grâce à des réalisations de Bakika et Aboukal, ont fini par l'emporter 2-1. Suite de cette 15e journée du championnat de France de Ligue 1, demain et lundi matin pour nous. À suivre demain Marseille-Lille, Auxerre-Lens et Reims-Monaco. Lundi, 5 matchs seront de menu. Montpellier recevra Nice. Les Nantais d'Antoine Comboiré seront en déplacement sur la pelouse de Brest. À suivre également Rennes-Angers, Le Havre-Strasbourg et le choc au Parc des Princes entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. En rugby, c'est un nouveau week-end de Coupe d'Europe qui s'est ouvert. Deux clubs français étaient sur les pelouses européennes ce matin. Fortune diverse pour le Castres Olympique et le Racing 92. Les Castrais, au terme d'un match maîtrisé, sont imposés à domicile 16 à 14 sur les Irlandais de la province du Munster. En revanche, le Racing 92 s'est incliné 29 à 7 sur la pelouse de Sale. Suite de cette deuxième journée de la Coupe des Champions, demain et lundi matin pour nous. Demain, l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, affrontera l'Ulster. Clermont jouera contre le Leinster et le Stade Rochelais recevra Bristol. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Stade français accueillera les Saracens. Toulon sera opposé à Glasgow et le Stade toulousain sera en Angleterre pour affronter les Chiefs d'Exeter. Un petit mot de sport d'hiver également avec la suite de la Coupe du Monde de biathlon. Ça se passe à Hochfilzen en Autriche. Chez les dames, cette nuit pour nous, c'est l'Allemande Franziska Preuß qui s'est imposée sur le sprint de 7 km 500. Elle a devancé la Française Sophie Chauveau et la Norvégienne Caroline Knutten. Chez les messieurs, doublé norvégien sur le sprint de 10 km. Johannes Boe s'est imposé devant Stula Laigred et la troisième place pour le Français Fabien Claude. Le sport en Calédonie est clap de fin sur la saison de Vaha avec la dernière épreuve de l'année qui se disputait au large de Lansvata, Michael Juneski.
Les championnats de Calédonie V6 mixte longue distance, un bal de fin d'année en quelque sorte pour les meilleurs rameuses et rameurs sur 15 km dans des conditions difficiles. Et le club des Îles Sous-le-Vent qui a trusté les deux premières places sur le podium alors que l'équipage de Toapin complète donc le tiercé. Écoutez, deux des membres de l'équipage victorieux des Îles Sous-le-Vent, Gaëtan Siakinou et Nathalie Vira.
Ça s'est bien passé, on a pris un bon départ, on est parti vite. Du coup, après, on a réussi à garder notre avance tout le long. C'est la dernière course, 14 décembre, c'est vrai que c'est vraiment la fin, juste avant les fêtes.
Ça commence à faire mal.
Ouais, ça commence à faire mal. Là. Bah, heureusement, la saison elle a été courtée parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu cette année. Mais franchement, ouais, ça fait du bien de revenir, de refaire des courses et là, c'était la dernière, donc du coup, on a tout donné pour la dernière.
Ah oui, surtout le mental aussi, parce qu'il fait très chaud. Donc, si le mental ne suit pas, tu as beau avoir les bras, tu vas vite lâcher. Pour tous les rameurs en général, hein, on était très contents que le calendrier il reprenne. On a enchaîné des courses pendant à peu près 2 mois, là, donc ça a fait du bien.
Voilà, le club des Îles Sous-le-Vent qui a aussi remporté les courses en kayak de place, une compétition avec une centaine de participants, donc pour clore cette année compliquée, mais qui se termine en beauté pour les rameurs calédoniens.
Il est midi et 35 minutes, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. Bon après-midi, excellent week-end sur Radio Rythme Bleu.